Mélanie Deschalotte, vous êtes journaliste. Pierrick Juin, vous êtes reporter dessinateur à Charlie Hebdo. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous publiez « Bébé sans bras, un déni sanitaire ». Est-ce que vous pouvez nous résumer cette affaire dont on a parlé il y a 5 ans mais qui remonte en fait à 2010 ?
Je peux vous résumer cette affaire, même si elle est assez complexe. Elle a commencé en 2010 par une alerte au sujet de naissance d'enfants sans bras dans l'Ain. Alerte qui a été confiée au registre des malformations en Rhône-Alpes, le RIMERA, qui a immédiatement confirmé un cluster de bébés sans bras, donc un excès de cas. Et ils n'ont cessé de tirer l'alerte durant plusieurs années, si bien que d'autres bébés sont nés avec la même malformation. Et en 2018, l'affaire a éclaté dans la presse et a obligé Santé publique France à réagir par 3 rapports qui étaient des rapports complètement creux et fallacieux, si bien que la ministre de la Santé, Madame Buzyn, a demandé une nouvelle enquête qu'elle a confiée au même pour refaire un point sur ces clusters, puisqu'entre-temps, d'autres clusters étaient apparus en Bretagne et en Loire-Atlantique. Et 3 nouveaux rapports sont sortis en 2019, tout aussi creux et fallacieux que les précédents.
On va revenir sur l'histoire, mais Pierrick Juin, est-ce que c'était difficile de dessiner clairement un récit parfois complexe ?
On a eu 2 façons de procéder. Une première, c'était en faisant des reportages, en fait, sur place. On allait à la rencontre des familles ou de politiques, comme le maire de Guidel. On a rencontré aussi un avocat de famille des victimes, Maître Rajon, à Lyon. Donc ça, c'est des épisodes où je ramenais déjà des dessins prêts à l'emploi, en fait, que j'ai pu utiliser, donc des vrais dessins de reportage qui sont dans la bande dessinée. Et l'autre partie, plus technique, c'était quand il fallait faire de la pédagogie, parce que Mélanie, les intervenants qu'elle a interviewés, utilisent beaucoup de termes scientifiques. Et on tenait à les garder pour être au plus près, avoir quelque chose de très technique, quoi, qui puisse être lu à la fois par des spécialistes et à la fois par le Kidam. Donc tout le jeu du dessin, c'était de rendre ça intelligible, et c'était un beau défi que j'ai relevé.
Dès le début, vous avez travaillé ensemble avec cette idée de la bande dessinée après ?
Ah oui, moi j'avais même en tête les idées de format, de papier. Mélanie était surprise que pour moi ce soit déjà un objet et tout. Mais c'est ce qui aide à avancer, parce que c'est un travail de longue haleine. Donc si on n'a pas l'objectif en tête, c'est plus difficile, quoi. Il faut penser au finish.
Mélanie Deschalotte, plusieurs malformations en quelques mois dans une même zone géographique. Est-ce que c'est forcément provoqué par quelque chose ?
Les malformations sont toujours dues à quelque chose. Dans un cas comme celui des clusters, ce sont des malformations pour lesquelles il n'y a aucune cause médicale, génétique, médicamenteuse, virale ou autre. Et ce sont des cas qui sont liés à une cause environnementale. Et en plus de cette cause environnementale, on dit que c'est un facteur exogène, mais qui n'est pas un médicament, qui n'est pas la drogue, qui n'est pas donc qui est vraiment lié à l'environnement. Au-delà de ça, il y a en plus une concentration dans une région précise. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'un cluster. Hein. On appelle ça un agrégat de cas spatio-temporels. Donc, les cas dont on parle sont des malformations qui sont liées à une cause environnementale.
Parmi les hypothèses évoquées pour expliquer ces malformations, il y a la contamination accidentelle ou volontaire de l'eau, et puis il y a la piste des pesticides. C'est votre travail pur, ou est-ce que c'est également Santé publique France qui a suivi ces pistes ?
Non, pour être exact, quand on parle de la piste de l'eau, on parle d'abord, cette piste que nous on a étudiée, c'est étudier le vecteur de l'empoisonnement. Donc elle n'est pas forcément coupée des pesticides, ça peut être une molécule liée à un pesticide qui a été transmise par l'eau. Cette piste-là, elle a été suggérée par le registre des malformations en Rhône-Alpes qui avait tiré la sonnette d'alarme. Cette piste n'a pas été étudiée par Santé publique France, ou de façon extrêmement superficielle. Pareil pour les pesticides, c'est une piste qui est restée extrêmement superficielle dans son étude par Santé publique France. Or nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est on pensait pas trouver la cause, hein, on n'avait pas la prétention de trouver la substance à l'origine de ces malformations. En revanche, on a montré qu'il fallait faire un certain nombre d'études assez poussées sur cette piste. C'est bien de savoir ce qu'ont épandu les agriculteurs alentour, mais c'est aussi bien de s'intéresser aux champs test, aux dérogations de pesticides et puis aussi au trafic, qui est quelque chose d'exponentiel dont on parle peu, qui touche toutes les régions des clusters. Et on a aussi soulevé la piste des métaux lourds, qui là aussi n'est pas une piste coupée des pesticides, puisque ces métaux lourds, comme le cadmium par exemple, sont présents dans les engrais. Et ces pistes-là, nous on les a étudiées parce que des experts, un groupe de travail qui avait travaillé pour le RIMERA, avaient suggéré ces pistes-là, et elles n'ont pas été étudiées. Et nous, on a voulu investiguer ces hypothèses quant aux causes de ces malformations.
Est-ce que vous pensez qu'on saura un jour ce qui a pu les provoquer ?
Nous, on espère qu'on saura. En revanche, étant donné l'inertie et l'incompétence des autorités de santé, il est évident que sur ces clusters en question, il est très difficile de savoir si on saura pour ces clusters-là. Ce sont peut-être d'autres clusters qui nous amèneront à connaître la cause. Maintenant, si je peux poursuivre un petit peu au sujet de ces clusters, le problème de la détection des malformations en France, c'est que vous n'avez que 7 registres en France. Le 7e est tout nouveau, il vient d'ouvrir, qui couvre que 20% du territoire. Donc en fait, si vous avez 20%, on va vous dire, bah oui, c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant, ça l'était avant, parce qu'on pouvait détecter une cause médicamenteuse ou virale pour ce genre de malformation. Mais aujourd'hui, où la santé environnementale est prépondérante, couvrir 20% du territoire, ce n'est pas suffisant. Et comme les malformations chez les enfants ne sont pas des pathologies à déclaration obligatoire, contrairement au cancer ou à certaines maladies génétiques, en fait, s'il n'y a pas un registre qui travaille sur le département, on ne peut pas savoir s'il y a un excès de cas, on ne peut pas savoir la fréquence de ces malformations.
Est-ce qu'on pourra, à l'avenir, aborder différemment une autre affaire sanitaire de ce genre ?
On espère qu'on puisse l'aborder différemment. C'est un peu à ça aussi que sert la BD. Nous, par exemple, ce qu'on voudrait montrer à travers cette BD, c'est que la création d'un registre national des malformations fœtales est indispensable en France. Les autorités de santé se détournent de la santé de la femme enceinte et du fœtus. Or, on voit que ce sont des questions qui sont prépondérantes parce que les pathologies liées aux causes environnementales sont exponentielles. Et on espère que s'il y a un autre cluster, les choses seront traitées différemment. Mais encore, faudra-t-il le détecter, ce cluster, puisqu'il faudra, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait un registre qui puisse prouver qu'il y a effectivement un excès de cas.
On le voit dans cette enquête, la gestion politique de cette histoire est assez édifiante. Il y en a d'autres où on sent que le ou la lanceur d'alerte est attaqué, voire décrédibilisé. Et ça a été encore le cas dans celle des bébés sans bras.
Ouais, ce qui est dramatique, c'est que les affaires de ce type se multiplient et à chaque fois, on assiste exactement au même scénario. C'est édifiant de constater ça.
En ce qui concerne les lanceurs d'alerte, vous les avez rencontrés également ?
On a rencontré Emmanuel Amar longuement. Mélanie était en contact avec elle tout le long de la bande dessinée.
Emmanuel Amar, comme le dit Pierrick, on l'a rencontré. Son registre, c'est la seule structure indépendante, le seul registre indépendant de France, c'est-à-dire qui est complètement coupé des conflits d'intérêts, où les gens ne font que ça. C'est un registre qui est asphyxié financièrement depuis sa création. Il dépend des subventions de l'État et les autorités de santé ne cessent de couper ces subventions. Là, au moment où on se parle, il y a une semaine encore, le registre devait fermer ses portes le 31 mars. Et certainement, en partie grâce à la BD, Santé publique France a accepté de poursuivre sa subvention, non pas sur 3 ans, mais sur 1 an, en donnant des contrats à durée déterminée d'un mois aux gens qui travaillent dans ce registre. Donc évidemment, le registre ne peut pas travailler, s'impliquer dans des grandes études internationales comme on lui demande. Et on sent que ce registre gêne. C'est aussi le registre qui avait dénoncé l'affaire de la dépakine.
À l'heure actuelle, il y a seulement 2 familles qui ont déposé une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui.
Oui. C'est le cas, 2 familles dont les plaintes ont été classées sans suite.
Les autres ont été victimes de pression ?
Pas tout à fait. Alors, on peut parler peut-être d'une pression dans certaines régions où il y a un environnement rural avec des agriculteurs qui ne voyaient pas forcément d'un bon œil qu'on porte plainte parce que ça laissait penser que ça pouvait être les pesticides. Après, les gens, ils ont souvent été abusés par le jargon de Santé publique France et par la novlangue de Santé publique France. Donc, ils étaient découragés et ils avaient l'impression que qu'ils sont de petites gens et que le combat est perdu d'avance.
Et porter plainte, ça revient à se porter victime d'un préjudice, donc ça revient à considérer son enfant comme une victime, donc mener un combat judiciaire qui va durer des années en affirmant je suis une victime, etc. Donc c'est pas évident, c'est des gamins qui se construisent, il y en a qu'on a vu, ils ont même pas 10 ans et tout, et ce qu'ils ont à cœur, c'est de montrer que malgré leur absence de membres, ils savent faire énormément de choses sans sortir dans la vie, quoi.
Pierrick Juin, Mélanie Deschalotte, merci. Je rappelle le titre de votre BD, Bébé sans bras, un déni sanitaire, publié aux éditions Les Échappées.